Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Bien sûr. Alors, si Christine, tu me permets, je vais commencer.
Bien sûr.
Bon, voilà. Alors, en tant que président de l'UTL, alors UTL, Université du Temps Libre, voilà. Hoche-Gascogne, pour bien préciser, notre rayon d'action n'est pas uniquement la ville d'Hoche, mais les grands alentours. Et je me nomme donc Jean-François Lavard, président depuis 4 ans de cette structure qui fait partie du réseau des universités populaires en France. On connaît, je pense, assez bien maintenant de plus en plus ces structures culturelles qui permettent à tout un chacun de venir tout au long de la vie, c'est ça l'esprit, recevoir pas seulement de l'information, mais du savoir, et transmettre du savoir. Il y a quelques mots clés comme ça dans les universités populaires, c'est la transmission du savoir et le savoir partagé. C'est je possède un savoir, j'ai envie de le transmettre, je vais vers les autres dans une structure donc culturelle, associative, loi 1901, classique. Et on a, au regard donc de ces intervenants, des adhérents, alors bien sûr qui ont un certain âge, parce que c'est vrai que pour avoir du temps libre, pour peut-être se consacrer à des activités culturelles d'une façon assez permanente, il faut peut-être avoir du temps, et avoir du temps, ça veut dire qu'on est un peu libéré des obligations et ou familiales et ou professionnelles. Mais ce n'est pas uniquement notre créneau. D'ailleurs, dans notre proposition d'activité, on a de plus en plus de personnes, on a des activités que nous positionnons après 18 heures, justement, voire après 20 heures, pour que même des personnes qui travaillent puissent y venir. C'est le cas notamment pour les cours de langue. On a beaucoup de demandes de ce côté-là. Et donc, Donc, l'UTL n'est pas une structure, ce n'est pas un club de troisième âge. C'est une structure très ouverte qui a ce jour, jour de ses 13e saison. Nous allons entamer la 13e saison avec plus de 350 adhérents. Ce qui représente quand même sur le secteur.
C'est pas mal. Alors, quelles activités vous proposez, par exemple?
Alors, on s'est structuré en quatre sections. Donc, une section art, une section lettres, une section langue et une section qu'on a appelée partage. Alors, dans la section art, on a historiquement l'Université du Temps Libre d'Hoche s'est appuyée sur l'histoire de l'art. On a trois modules qui se répondent les vendredis après-midi, les uns sur l'art contemporain notamment. Il faut savoir que le vendredi après-midi, une cinquantaine de personnes pendant 2 heures viennent écouter un docteur en histoire de l'art sur l'art contemporain. Et les gens disent c'est très quand même l'art contemporain, c'est un peu ardu, on connaît pas bien.
C'est pointu.
C'est ça. On participe à au fait de pouvoir divulguer cette culture et que tout un chacun puisse y accéder. Donc, sur l'art contemporain, on en a parlé, l'art aussi de la Renaissance, tout ce qui s'est passé autour de la Renaissance, c'est important. L'art des vieilles pierres, avec un spécialiste des vieilles bâtisses du Gers, et il y en a beaucoup, tout ce qui touche le roman, le gothique. Donc on a une section art assez importante, et cette année, alors ça c'est un peu le scoop, on est à la radio, donc allons-y pour les scoops. Et donc, on va ouvrir un module sur l'histoire de la musique. Très très intéressant. Il y avait aussi une demande dans ce sens-là, et on va donc proposer à nos adhérents d'apprendre, d'écouter de la musique, des morceaux de musique, apprendre à écouter la musique classique et s'interroger aussi sur cette musique classique qui, elle n'est pas en perdition, mais il y a des époques comme ça où il faut se battre un peu pour que des certaines formes d'art continuent de bien exister.
Vous faites venir des intervenants?
C'est des intervenants, oui. Donc, sur l'histoire de l'art, on a donc des docteurs en histoire de l'art qui viennent de Toulouse, principalement. Dans la section langue, elle a commencé, bien sûr, avec anglais, espagnol, italien. C'était une langue classique. Et maintenant, elle est très, très importante puisque, à côté de ces langues, assez traditionnelles dans la région, on va noter le gascon, il fallait pas l'oublier, qui pour sa deuxième année est vraiment bien enraciné et va vivre sa deuxième année. L'allemand également est venu l'année dernière compléter cette section. C'était une demande de nos adhérents. Certains ont eu dans leur passé ou professionnel ou venant d'autres régions. On sait que le Sud-Ouest est très accueillant, oui, hein, pour les gens qui viennent du Grand Nord. C'est vrai que l'allemand a été à une époque la première langue, hein, beaucoup. Ça a été l'anglais, oui, c'est l'anglais maintenant, mais l'allemand dans les années 60-70 était, notamment au-dessus de la Loire, tout, oui, pareil, était une langue qu'on apprenait. Donc, en première langue, et beaucoup ont aimé cette langue et avaient envie de la reprendre. Hein. Voilà. Et tout un secteur, je dirais, de langue orientale, on va, hein, c'est ainsi qu'on peut les nommer. Là, je m'adresse à Christine, hein, donc, qui est notre professeur, Christine Sasakura, notre professeur de chinois et de japonais. Hein. Voilà. Donc, hein, ça, voilà, c'est quand même, ça fait un panel assez large entre le gascon et le chinois. On voyage, hein. Ce qui nous plaît bien, nous, en tant que responsables, puisque l'université du temps libre, c'est aussi une université universelle, hein, si, oui, je joue sur les mots, et de pouvoir envisager que, ben, on vit bien en Gascogne, mais il y a aussi l'autre bout du monde, plus, oui, loin, il y a d'autres gens aussi qui ont leur culture et leur tradition. Hein, voilà, dans le domaine des langues. Et cette année, alors là encore un scoop, hein, vous êtes vraiment les premiers à voir. Vous voyez, j'ai devant moi le programme qui n'est pas fini, il est encore en noir et blanc, il y a encore des vides. Mais si je tourne à la section langue, on voit apparaître donc l'arabe. Cette année, nous allons proposer d'étudier l'arabe littéraire et il nous semblait que c'était aussi très très important, ouais, dans ce catalogue de langues. Voilà pour la section langue. Alors, une section lettres également, hein, qui permet d'aborder le théâtre, hein. Donc, hein, voilà, on a regroupé là cours de théâtre qui a eu beaucoup de succès les dernières activités du soir, hein, 20h, oui, 22h. Voilà, il faut nommer là Geneviève Bigger, qui est bien connue, hein, des Occitains, qui est la présidente du Théâtre du Grillo Blanc, oui, qui est un partenaire très 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 proche de l'UTL, et qui a décidé, pour répondre à la demande, d'ouvrir également un cours de 16h à 18h.
D'accord.
Hein, voilà. Activité gratuite, là aussi, voilà, où on peut venir en tant que simple adhérent de l'UTL. On y enseignera le latin et le grec, qui sont aussi des langues, voilà, pas mortes, mais anciennes, comme tient à dire Jean-Pierre Batzer, mais on l'a mis dans la section lettres. Un club des poètes, également, qui se réunit une fois par mois.
Ça, là, c'est bien.
Un club littéraire, hein, un café littéraire, exactement, animé par Suzy Houlet, qui, le deuxième lundi du mois, on réunit, on choisit un livre du mois, et puis après, on vient en discuter.
Ouais, voilà, c'est philo,
café philo, dans l'esprit café philo. Et puis, alors, là aussi, gros succès, hein, et qui a atteint sa limite, déjà plus d'une vingtaine d'adhérents par séance, voilà, c'est bien. Et alors, parallèlement, là encore, nouveauté de l'année, on va le doubler par un salon de lecture, où là, animé par Gérard Tournadre, hein, qui est aussi une personne très connue dans le monde de la poésie et la littérature sur Roche, puisqu'il édite une revue, hein, et qui vient de nous rejoindre et qui va animer un salon de lecture. On va s'interroger, revisiter le siècle des Lumières et regarder de près ce que Rousseau et les autres nous ont proposé à ce moment-là. Là, on sera dans un examen, donc de la littérature, un peu plus. Hein, voilà. Alors, la section lettres également introduit un cours sur l'histoire, un module sur l'histoire, et depuis, ça sera la troisième année, ça sera la fin, puisque le thème était « Splendeur et déclin de la famille d'Armagnac ». Donc là, on arrive à la fin, ils vont avoir quelques soucis, et voilà. Alors, ça sont des rendez-vous, il y aura 8 rendez-vous les lundis, à partir du mois d'octobre, voilà. Et pour finir, la section partage, on y retrouve des ateliers informatiques, également un atelier d'échecs, hein, qui a commencé l'année dernière, voilà, Jean-Marc Fouillou, hein, qui est l'ancien président du club d'échecs armagnacais, nous a rejoint. D'accord. Et cette année, il va dédoubler également son activité avec une partie de cours pour apprendre,
oui,
qu'on soit débutant ou qu'on souhaite se perfectionner, et puis un autre jour pour se rencontrer, faire des mettre en pratique en fin de compte les connaissances. Hein. Pas des tournois, c'est pas l'esprit, hein, mais pouvoir jouer.
D'accord.
Voilà. Donc atelier informatique également. Et alors, on a mis là Également ce qu'on appelle donc des forums citoyens. L'UTL organise au moins une fois par trimestre des rencontres ouvertes au plus grand nombre sur des faits de société, des questions sociétales et ouvertes à tout le monde, hein, parce que bon, on le dira peut-être, nos activités ne sont pas toutes gratuites, hein, bien sûr, mais bon, même si nos prix de cotisation sont très très raisonnables pour que le plus grand nombre puisse participer, mais on tient à avoir des activités, notamment ce type-là, où on vient débattre, discuter sur un thème. Voilà. Et le forum du mois de décembre aura lieu le 6 décembre, donc le forum du trimestre, et portera, on est en train d'affiner le sujet, mais sur les sectes. Alors, vous voyez que, voilà, hein, il y a de quoi dire.
De quoi discuter, justement. Voilà.
Et également, donc, tout un cycle de conférences, hein, qui vont émailler l'année, que ça soit la peur sous toutes ses formes, hein, on commencera l'impressionnisme et la mode, hein, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut. Le muralisme, hein, c'est, donc, qui nous emmènera du côté des précolombiens, hein, voilà. Et Dali, on abordera Dali également, hein, voilà. Et les prévisions mayas, vous savez que le. Ah oui, les fameuses prévisions mayas.
Donc, c'est le 21 décembre.
Voilà, on verra si on est encore là pour en parler. Bon, voilà, je vais dresser rapidement. Alors, si on veut découvrir tout ce programme, il sera remis, bien sûr, gracieusement, lors d'une journée de rentrée. Nous avons une journée de rentrée qui a lieu le mardi 11 septembre à partir de 18h à la Maison de Gascogne. En fait, ça suit la Foire du Sport et à la Culture. Bonjour. Et là, nous invitons les personnes qui veulent donc découvrir le programme de l'UTL d'y venir. Les intervenants sont là, se présentent, ont également des mini-stands où on peut aller leur poser des questions et prendre le temps de s'inscrire tranquillement, donc, à l'Université du Temps Libre.
Voilà. Alors, est-ce que vous avez un site internet ?
Absolument, bien sûr, c'est important, il est très visité. Hein, on a un petit compteur et puis on voit qu'on nous regarde de très loin. Hein, on comprend que vraiment tout le monde clique à un moment donné sur notre site, hein, qui est donc, je vais vous le donner, hein, voilà, les fameux www.utl-hoche.asso.fr.
Et un numéro de téléphone où vous contactez ?
Absolument, 05 62 0 65 70 87. Je vais le refaire parce qu'on l'a changé il y a 3 mois. Voilà pourquoi même le président se trompe encore. 05 62 65 70 87. Et très important peut-être notre adresse mail, hein, oui. Puisqu'on répond volontiers au courrier qu'on nous adresse et qui est simple, elle, utl32@orange.fr.
Et où est-ce qu'on peut vous trouver, votre adresse ?
Alors, on a un local au 17 rue Victor Hugo.
Oui.
Voilà. Suffit de monter la rue en partant de la mairie. Dès que vous voyez un feu rouge, voilà, le tribunal est à droite, nous sommes à gauche. Je suis justement accompagné de Christine Sasakura, puisque cette année, l'OMS donc, nous a demandé, enfin la commission de la Foire du Sport et de la Culture, nous a demandé d'assumer le temps fort culturel. On en est très honoré et on a répondu en se penchant sur une des activités que je n'ai pas mentionnées et qui fait partie de nos domaines de l'art, hein, sur donc le shodo qui est de la calligraphie japonaise. Mais là, je vais laisser Christine Sasakura présenter cette activité, bien sûr.
Donc,
Jean-François, je suis enchantée.
Moi de même, de faire votre connaissance et de pouvoir discuter, voilà, sur les activités que j'ai d'abord travaillé sérieusement pendant longtemps et de retransmettre ce savoir à qui veut bien essayer de comprendre ce que c'est que l'art japonais, la société japonaise et les petits plus qu'on retrouve éventuellement dans les arts martiaux japonais que si on pratique, on peut découvrir.
Donc c'est d'abord un art martial, comment l'explique
voilà, alors je vais essayer de me faire comprendre. On sait que voilà, déjà shodo, donc do, on le retrouve dans judo, kyudo, donc judo, la voie de la souplesse, kyudo, la voie de l'arc, sado, la voie de la cérémonie de thé. Il y aurait juste que Ikebana, Là, ça change un petit peu. Hein. Donc là, c'est l'art floral. Donc ce n'est pas la voix de l'art floral. Et puis, Shodo, qui est la voix de l'écriture ou la voix de la calligraphie. Ce qui est différent, si je répète, voix de l'écriture et voix de la calligraphie. Voix de l'écriture, c'est l'apprentissage de l'écriture pour pouvoir apprendre, étudier et retransmettre des choses par un savoir livresque, etc. La voie de la calligraphie, c'est un peu plus profond, c'est-à-dire que on rentre dans un domaine bien particulier que seuls les gens qui ont une sensibilité à découvrir le Japon peuvent essayer de comprendre le fondement réel de ce qu'est la voie. Donc, et voix de l'écriture, voix de la calligraphie plutôt, je répète, c'est essayer de comprendre l'art qu'est le fait d'écrire des caractères à l'encre et au pinceau.
Ah, c'est au pinceau, c'est pas avec un petit bambou
Pas du tout. Alors, le bambou s'appelle un kalam, mais cet outil-là d'écriture est normalement un outil pour la calligraphie latine.
D'accord. Voilà.
Nous, en shodo, non, pas du tout. En shodo, on utilise le pinceau et l'encre.
D'accord.
Et le papier de riz, puisque il y a 4 trésors du lettré, en Japon, comme en Chine d'ailleurs. Donc les 4 trésors du lettré sont le pinceau, le papier, le bâtonnet d'encre et la pierre à encre. Et si je veux expliquer un petit peu la différence entre le bâtonnet d'encre et la pierre à encre, le bâtonnet d'encre est l'espèce de, on dirait un crayon, une mine que l'on frotte avec de l'eau sur la pierre à encre pour obtenir le liquide dont on se sert pour faire la calligraphie.
D'accord.
Voilà.
Mais il faut être, j'imagine, extrêmement précis pour ne justement pas. Pour avoir un très joli trait.
Alors, tout à fait. La précision, c'est pas ce qui est important dans le shodo. Ce qui est important, c'est, le milieu, le centre. Ce qu'on appelle shushin, savoir entrer dans un centre, dans un milieu, donc un équilibre. Donc on s'équilibre par rapport à une gravité, c'est ça qui est important. Ensuite, il faut savoir tracer des caractères. Donc des caractères sont composés de 6 traits. Donc 6 traits, donc il y a des traits horizontaux, des traits verticaux, des virgules à droite, à gauche, des virgules remontées, descendantes et des points. Voilà. Et tout ça, donc, s'apprend, bien sûr, sont des bases de travail. Et une fois qu'on a ces bases, on les applique sur des caractères avec un sens.
Oui.
Voilà. Et alors, moi, quand je présente la calligraphie japonaise, puisqu'on parle de calligraphie japonaise aujourd'hui, j'essaie de faire connaître cette approche aux élèves en disant vous ne connaissez pas la langue japonaise, ça c'est certain, voilà. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette particularité quelque part méconnue.
Oui.
Moi, mon intérêt, c'est de faire connaître le Japon au travers de disciplines, et notamment celle-ci, le shodo. Donc je dis, je vous apporte un modèle, un modèle avec un fléchage de traits.
Oui.
Ce que veut dire le mot, bien sûr. Donc en général, on essaie de faire travailler un petit peu l'émotionnel de la personne. Donc ce sont des mots, par exemple, comme... j'en connais plein. Loyauté, bonté, harmonie, Donc des choses qui portent au niveau émotionnel. Voilà. Alors, dans un premier temps, c'est ça. Et ensuite, moi, je suis là pour apporter la technique.
Oui.
Donc, c'est-à-dire le positionnement de la main sur le pinceau et puis les forces à faire travailler sur les forces du pinceau à faire travailler sur le papier. Oui. Hein? Et ensuite, bon, ça, c'est les premières étapes. Et plus on avance dans le travail, c'est-à-dire qu'un an, deux ans, trois ans, etc., là, on rentre un peu dans une profondeur de perception sensorielle. Mm-hmm. Hein? C'est-à-dire qu'on va essayer de sentir des forces quand on va travailler avec son pinceau. Donc forcément, oui. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est un peu compliqué, on ne comprend pas trop, mais bon, les élèves, au fur et à mesure du travail et du temps, s'aperçoivent que voilà, ils ont besoin d'avoir plus que de tracer des traits. Et moi, je suis là, et mon rôle, c'est celui-ci, c'est d'apporter la réelle culture asiatique au oui. travers de cette durée d'expérience.
Oui, parce qu'il faut quand même le ressentir, le trait du pinceau sur...
Voilà, il faut ressentir le trait, il faut ressentir... la force que va dégager le caractère, parce oui. que voilà, c'est un tout. Hein, donc, il faut essayer de rapprocher le travail technique avec l'émotionnel.
Oui.
Ça, c'est important. Et c'est, on ne connaît pas ça, bon, avec tout le respect que j'ai pour la calligraphie latine, hein, bien sûr. Mais voilà, dans le travail asiatique, quel qu'il soit, hein, que ce soit les arts martiaux, que ce soit la calligraphie, il y a cette voilà cette profondeur dans laquelle il faut rentrer pour accéder un petit peu à la bon je vais dire le mot spiritualité asiatique, mais à la profondeur asiatique, l'atmosphère asiatique et l'esthétisme asiatique.
Oui, il faut être à la fois, je dirais, comme artiste. Et enfin, c'est vraiment ouais, un équilibre, comme vous
voilà,
disiez tout à
voilà.
l'heure.
Alors, j'ai un exemple éventuellement qui pourrait faire travailler les gens qui écoutent. Voilà, on dit qu'en calligraphie, il ne faut pas seulement dessiner un bambou. Si un maître dit, voilà, au disciple, dessine-moi un bambou. Oui, bon, la personne... va dessiner un bambou tel que, par exemple, elle aura l'image devant elle d'un bambou. Et puis, quand cette personne va montrer au maître, voilà, maître, j'ai voilà, mon bambou, ça y est, je l'ai fait. Et le professeur va poser la question au disciple en disant, pour moi, ce n'est pas un bambou. Ah, question. Et pourtant, j'ai bien dessiné le bambou. Le maître va dire, est-ce que tu étais devenu bambou toi-même ? Ah, point d'interrogation. Ah, alors voilà. Reprends ton travail et quand tu respireras la sève du bambou, alors ton travail sera réalisé. Alors voilà, ça c'est quelque chose de très... Mais les élèves, moi j'ai des élèves qui entament une cinquième année de calligraphie, qui commencent déjà à percevoir cette phrase, le contenu de cette phrase et la profondeur de ce contenu. Donc ça, c'est très important. Et moi, je me permets d'avoir l'obligeance de faire entrer le monde des Européens, des Français et des Gascons dans ce domaine où moi, j'ai travaillé beaucoup et que je respire maintenant et que mon devoir, c'est cette retransmission.
Oui, je trouve ça extraordinaire.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Donc, on vous retrouve comme prof. On peut dire professeur ou...
On peut dire professeur. Oui. Voilà, je reste professeur. Voilà. C'est vrai que, bon, il y a des gens... Moi, j'ai rencontré des gens dans des activités de calligraphie ou qui m'appelaient maître. Et ça me chiffonnait un petit peu parce que maître, ici, en Europe, ça n'a pas tout ce caractère que l'on connaît au Japon et en Chine. C'est totalement différent. Et moi, je ne peux pas être dans le contexte de la Chine ou du Japon. Ce n'est pas possible. Donc, étant donné que je n'ai pas ce contexte pour enseigner, je ne suis pas... Voilà, on ne peut pas m'appeler maître. Par contre, au Japon, oui, si on m'appelle maître... oui, j'accepte cette appellation. Mais sinon, voilà, mais professeur, oui. Voilà, et professeur, et on me vous voit. Parce que, voilà, c'est, pour moi, c'est le relationnel du savoir. Voilà, il faut respecter la personne qui a le savoir, avant vous. Donc, je voulais juste, essayer de dire quelque chose par rapport aussi au fait que je professe à l'UTL, il ne faut pas non plus oublier, hein, puisque je viens aussi avec monsieur Labarre, qui est président de l'UTL, donc j'exerce aussi cette activité au sein de l'UTL, donc pour moi c'est important aussi de faire des échanges sur ce savoir, par le biais, je veux dire, par le fil conducteur qui est l'UTL, auprès des Gersois, et voilà, essayer de faire voyager les gens au-delà du Gers, et c'est très important. Et voilà, j'ai une terre d'accueil très, très intéressante, voilà, par le biais de l'UTL, pour le faire. Donc je remercie M. Labarre, président de l'UTL, Auch-Gascogne. Voilà.
Et merci beaucoup. Vous avez quelque chose à rajouter, tous les deux?
Ben non, ben nous, oui, quoi, avec une belle saison. Alors oui,
oui.
Je disais la 13e saison hein, de l'UTL. Alors, à cette période-là de l'année, là, la sortie des vacances, juste avant la rentrée scolaire, au moment de la rentrée scolaire, pour nous, c'est un gros travail de préparation, une nouvelle saison, nouveau rendez-vous avec nos adhérents et avec la population d'une façon générale. Et on tâche d'être à la hauteur de cette mission culturelle, hein, une mission qui est d'ailleurs bien appuyée, je dirais par la municipalité, hein. Il y a également le conseil général qui nous subventionne, il faut dire les choses. Et ben, on va tâcher aussi d'être à la hauteur encore cette année, comme les années précédentes. Et donc on donne rendez-vous à tous ceux qui veulent nous rencontrer, découvrir notre programme. Je le redis, donc mardi 11 septembre à 18h à la Maison de Gascogne. Voilà, tout le monde est le bienvenu, hein. Voilà, on finira même par le verre de l'amitié pour vraiment être dans la convivialité. C'est important, hein, on cultive tout à fait l'art de la convivialité à l'UTL.
On va parler, est-ce qu'il est possible d'en rajouter un petit peu aussi?
Oui, bien sûr.
Oui, comme quoi, oui, voilà, oui, par rapport au temps fort, tout ça
voilà,
arrive.
Voilà, tout à fait,
oui,
voilà.
Oui, peut-être.
Ce que j'expliquais sur l'enseignement. Donc c'est vrai, ce qui va être important cette année, bon, comme disait le président de l'UTL, M. Jean-François Labarre, il y a quand même l'occasion de montrer un temps culturel lors de la foire au sport et à la culture. Je pense que c'est la première fois, je pense, qu'il y a un temps fort culturel.
Non. En tout cas, nous allons l'honorer. Voilà.
Et bah, pour moi, ça va être quand même quelque chose de très important, puisque bon, Monsieur le Président avait demandé est-ce que la calligraphie japonaise voilà, présente l'UTL hein, sous ce point fort. Donc, je pense que voilà, je vais préparer quelque chose, donc forcément la calligraphie. Mais ce qui sera important, c'est que ce ne sera pas la calligraphie sur petit format 21-29-7. Là, c'est de la calligraphie géante. Oh. Donc voilà, avec un gros pinceau. Et puis l'idée que j'ai eue justement, puisqu'on a quand même beaucoup d'associations sportives, notamment d'associations d'arts martiaux, hein, donc karaté, judo, aikido, etc. Et pour moi, il fallait que je fasse un lien entre le sport et le culturel, c'est-à-dire. Le sport est aussi une activité culturelle, hein, mais beaucoup plus physique. Et il fallait voilà, que je fasse un lien entre les disciplines telles qu'elles sont présentées au sein de l'UTL et dans d'autres stands ce jour-là. Et je m'étais dit, mais voilà, je vais proposer bon, des calligraphies géantes avec, bien sûr, un thème, enfin quelque chose, quoi, un lien. Et la première calligraphie, donc elle représentera l'ensemble des arts martiaux. Mm-hmm. Hein, donc je ne dis pas de suite parce que ce sera la surprise. Voilà, hein, il faut laisser un petit peu les gens en attente. Et puis la deuxième calligraphie, elle sera aussi donc bon une je veux dire un caractère, mais celui-ci permettra de faire une synthèse sur le travail des arts martiaux tel qu'il est ou d'autres activités, hein, puisque bon, quand on veut essayer d'évoluer dans une activité, on passe par la phase intellectuelle, le professeur dit qu'il faut faire comme ça, donc oui. Je fais comme ça, etc. Et après, il y a une phase où on transcende voilà, ce côté ouais. intellectuel, et puis voilà, on s'exprime voilà, sans que ça passe par le filtre cerveau, si on dira. Et moi, je vais essayer de démontrer, bon, par quelque chose aussi de peut-être très spectaculaire, justement ce lien, enfin ce dépassement du travail pratique et uniquement intellectuel.
D'accord.
Donc moi je donnerai la surprise, mais je pense que ça va intéresser vraiment beaucoup de personnes, surtout notamment les clubs d'arts martiaux, puisque ça permettra de voir que après l'aspect compétition, hein, comme beaucoup le font dans le domaine sportif, il y a autre chose, et cette autre chose, la calligraphie japonaise peut l'apporter comme d'autres, mais moi je parle en l'honneur de cette discipline, et je sais pertinemment que les gens qui sont passés par moi je veux être fort, moi je veux gagner, etc. Après forcément on bascule sur autre chose, et sur cette autre chose c'est une recherche beaucoup plus profonde de soi, et la calligraphie japonaise peut le donner aussi bien que l'art du sabre qui s'appelle le yaido. Hein, bon, là c'est autre chose, mais c'est deux disciplines où une fois qu'on a essayé de paraître devant public, on essaie de se retrancher sur soi-même et de garder toutes les vertus d'un travail long et assidu dans ce contexte artistique. D'accord. Et calme, beaucoup plus calme.
Oui, voilà. Alors, je ne voudrais pas oublier une dimension, et c'est aussi pour ça que on a choisi, nous, de demander à... On a demandé à Christine de représenter l'UTL à travers ce temps fort, parce qu'il y avait donc... deux aspects, je dirais deux dimensions. Le fait de nous emmener un peu au bout du monde, dans d'autres contrées, que la culture a besoin de voyager, on a besoin de savoir comment ça se passe ailleurs pour peut-être mieux se connaître aussi. Les grands philosophes se sont bien exprimés là-dessus, je ne vais pas les plagier. Et il y a aussi une autre dimension, c'est que les cours de japonais, de chinois que dispense Christine au sein de l'UTL ont fait en sorte que les jeunes sont venus. Parce que ces cours de japonais, il faut le rappeler, ont vu le jour à l'UTL parce que des jeunes principalement, étaient passionnés de manga et cherchaient à aller plus loin dans leur connaissance. Et pour nous, ça a été une belle révélation, quelque chose de très important. Et s'est mis en place tout un courant intergénérationnel. C'est ça, je voudrais insister là-dessus, au sein de l'UTL. Je disais, l'UTL n'est pas un club de troisième âge. Tout respect pour le club de troisième âge, bien sûr. Mais pour pas qu'on nous connote ainsi, il faut savoir que donc beaucoup de jeunes gens participent donc à ces cours de japonais notamment. Et la prestation que va faire Christine Sasakura va être accompagnée également de jeunes dont certaines sont adhérentes à l'UTL et apprennent le japonais et ont une passion qui est tout à fait tendance, on dirait maintenant, moi je l'ai découvert, qui est le cosplay. Le cosplay, c'est ce qui permet à des jeunes, mais je parle un peu sous le contrôle de Christine aussi, mais de s'approprier des personnages issus des mangas principalement, mais pas uniquement, et de fabriquer les costumes, de coudre les costumes, de chercher à investir ce personnage, à se transformer et à prendre des postures liées à ce personnage. Et on aura à la foire du sport et de la culture, puisque le temps fort culturel est prévu dimanche à 15h, mais dès 14h défileront dans les allées du parc donc des jeunes gens déguisés, costumé, faut pas dire déguisé, il faut dire costumé, parce que en personnages qu'ils intègrent, qu'ils ont choisi, dont ils ont fait des costumes eux-mêmes, et viendront également enrichir la prestation sur le podium entre les deux calligraphies importantes que fera Christine. On verra un ballet, c'est une chorégraphie, orchestrée donc par ces jeunes qui sont regroupés au sein d'une association que nous avons donc découvert et qu'on remercie aussi. De participer activement et donner une image, et c'était ça la dimension que je ne voudrais pas rater dans ce reportage, c'est la dimension intergénérationnelle.
D'accord.
Et en fin de compte on voyage loin, mais on va aussi voyager dans l'espace temps à travers des jeunes et des plus anciens, on va dire, avec la culture en fin de compte Très bien, j'évoquais tout à l'heure le siècle des Lumières. Oui, certes, la littérature, les philosophes, le monde de l'art. Actuellement, pour un adolescent, le monde de l'art, le monde de la réflexion passe aussi par des techniques comme le cosplay. Et moi, je veux saluer ces jeunes qui vont nous enchanter. Ils vont nous apporter beaucoup de couleurs et de joie sur cette scène du temps fort culturel.
Eh bien, on vous remercie vraiment beaucoup.
Merci à vous.